Accent d'Europe, Juliette Garbrand.
Bonjour. L'inégalité criante d'accès aux vaccins contre le Covid sur la planète persiste. Seuls 2% des 6 milliards de doses administrées dans le monde l'ont été sur le continent africain. Malgré le dispositif COVAX, malgré une augmentation des livraisons récentes, notamment de la part de l'Union européenne. En Europe, les personnes fragiles ont accès à une troisième dose et les mesures de prévention ont permis de faire chuter la circulation du virus. Mais certaines de ces mesures font débat. Le principe du pass sanitaire notamment suscite des résistances. En Italie, il sera obligatoire à partir du 15 octobre sur tous les lieux de travail. Il est déjà imposé depuis la rentrée dans les universités où la mesure est loin de faire l'unanimité. Par exemple, en Sicile, à l'université de Palerme où s'est rendue notre correspondante Cécile de Barge.
Devant l'une des grilles d'entrée de l'université de Palerme, un petit groupe attend, en file, de scanner son QR code pour pouvoir entrer. C'est la règle depuis le 1er septembre. Les près de 50 000 étudiants, professeurs et personnels de l'université doivent être détenteurs d'un pass sanitaire. Une mesure qui convainc Andrea, étudiant en troisième année de licence d'ingénierie informatique.
J'y suis favorable. Pour moi, c'est un bon moyen de pouvoir contrôler cette crise et j'avais déjà fait le vaccin de toute façon. Donc, que le pass sanitaire soit obligatoire, ça a plutôt été un atout.
Assis en face de lui à l'heure du déjeuner sur les pelouses de la fac, Kevin, 20 ans, explique que parmi leurs camarades de classe, presque tous avaient fait le choix de la vaccination.
Je ne l'ai pas vécu comme une obligation. Ce sera peut-être différent pour quelqu'un qui n'a pas le pass sanitaire ou qui ne souhaite pas se vacciner. Mais je ne pense pas que ce soit une obligation. Ça sert à prévenir la diffusion du virus.
Un non-problème donc pour ceux ayant fait le choix du vaccin contre le Covid. Une mesure contraignante pour les autres qui doivent être en possession d'un test antigénique de moins de 48 heures. D'autant que si le vaccin est gratuit, le test, lui, est payant, comme l'explique Bianca, 26 ans, étudiante en master de statistique.
Personnellement, moi qui ne suis pas vaccinée, je devrais faire au moins 3 tests par semaine minimum pour suivre les cours toute la semaine. Un test coûte 15 euros, soit en arrondissant 200 euros par mois.
Surtout, défend cette étudiante, le vaccin n'empêche pas la contagion. Par conséquent, le test est le moyen le plus fiable d'éviter la circulation du Covid. 5 professeurs de l'université de Palerme ont d'ailleurs décidé d'écrire au recteur afin de demander la possibilité de réaliser gratuitement des tests sur le campus, une demande que ce dernier a refusée. Fabrizio Micari.
C'est inimaginable qu'en présence d'une situation où le vaccin est gratuit et offert par l'État, c'est inimaginable que ce soit à nous de supporter le coût des tests. Au contraire, nous, on doit favoriser les vaccins et la campagne vaccinale.
Le coût des tests, la fréquence à laquelle ils doivent être répétés, représente pour les signataires de la lettre une contrainte très forte sur les personnes non vaccinées. Or, la vaccination relève d'un choix personnel et les données de santé sont normalement confidentielles, estime le professeur d'économie et gestion d'entreprise, Gandolfo Dominici.
La question ici, c'est pas de savoir si oui ou non il faut un vaccin, c'est pas de savoir si le vaccin est utile ou pas. D'ailleurs, il est sûrement utile, en particulier pour les personnes âgées ou pour les personnes qui ont des maladies, des problèmes de santé. Mais ce sont des choses qui les regardent elles et leur médecin traitant, mais qui ne regardent pas le gouvernement.
Autre professeur signataire, le professeur d'économie d'entreprise Massimo Costa.
Il y a à tous les niveaux de la société des personnes qui n'acceptent pas cette manière de faire, et en particulier sur la forme. Parmi les collègues qui ont signé la lettre au recteur, beaucoup sont vaccinés, par exemple, car dans un premier temps, nous avons été nombreux à croire en ce vaccin, même si désormais des doutes ont pu émerger. Mais ce qui ne nous convainc pas, c'est le principe de pass sanitaire. Ce sont deux problèmes différents qui doivent être traités séparément.
À travers toute l'Italie, ce sont près de 1000 professeurs d'université qui ont signé un appel pour dénoncer l'obligation du pass sanitaire à l'université. C'est une violation des droits humains, estime Gandolfo Dominici.
Quand je parle de droits bafoués, c'est avant tout du droit à étudier, parce qu'on a introduit une discrimination entre ceux qui ont le pass sanitaire et les autres. Et puis c'est un vrai chantage, si tu ne te fais pas vacciner, c'est soit tu dois faire un test à tes propres frais toutes les 48 heures, soit tu ne peux pas étudier.
Or, le droit à l'instruction ou au travail, par exemple, devrait être garanti a priori, et sans que cela ne soit soumis à une décision personnelle de santé, estiment les signataires. Le professeur Massimo Costa voit dans cette contrainte une dérive inquiétante.
Le problème, c'est l'introduction, en théorie jusqu'au 31 décembre, mais ce sera probablement prolongé et établi à long terme si rien ne change, d'un système de crédit social, un système qui certifie si l'on est, oui ou non, un bon citoyen. Aujourd'hui, c'est lié au fait de s'être soumis ou non à cette nouvelle thérapie, mais avec le temps, ça pourrait être avec n'importe quoi d'autre.
Épaulé par l'avocat Giulio Marini, spécialiste en droit européen et international, le professeur Dominici a réuni les signatures de 36 professeurs d'université à travers 9 pays européens afin d'adresser une lettre au Conseil de l'Europe et de dénoncer la situation. Giulio Marini.
Personne ne discute le fait qu'il faille mettre en sécurité les salles de cours, les endroits où il y a un regroupement de personnes. En revanche, c'est opportun de demander que cette mise en sécurité soit réelle, efficace. La Commission européenne explique que 3 principes doivent être respectés pour qu'une mesure puisse être adoptée par un gouvernement, qu'elle soit proportionnée, effective et nécessaire.
Le Conseil de l'Europe estime que pour assurer un niveau élevé d'acceptation des vaccins, il faut s'assurer que les citoyens soient informés que la vaccination n'est pas obligatoire et que personne ne subisse de pression pour se faire vacciner s'il ne souhaite pas le faire personnellement. Une décision politique dans la mesure où les résolutions du Conseil ne sont pas contraignantes. Les questions soulevées par les professeurs d'université risquent de rencontrer un écho grandissant en Italie. Dès le 15 octobre, le pass sanitaire sera obligatoire pour tous les travailleurs.
Aux Pays-Bas, la vie a repris presque à la normale après l'été et le Corona Pass est entré en vigueur samedi dernier. À l'entrée des cafés, des restaurants ou pour un événement culturel, les Néerlandais doivent montrer une preuve de vaccination ou un test négatif récent. C'est l'une des toutes dernières mesures sanitaires encore visibles dans le pays, mais elle se heurte à de fortes résistances comme ailleurs. À La Haye, les précisions d'Antoine Moutot.
C'est l'un des épisodes les plus marquants de la dispute entre le gouvernement néerlandais et les antipasses sanitaires. Mercredi à Utrecht, les autorités ont placé des scellés sur les portes d'entrée d'un restaurant. Son propriétaire avait prévenu, il ne demandera pas à ses clients de montrer leur passe sanitaire pour pouvoir accéder à l'établissement. Rapidement, la nouvelle parvient aux oreilles d'opposants aux restrictions anti-Covid-19. En soutien, une manifestation spontanée a lieu devant le restaurant et en quelques heures à peine, des campagnes d'appel aux dons pour le propriétaire récoltent plus de 200 000 euros. Avant lui, des personnalités néerlandaises se sont aussi rebellées contre le Corona Pass. C'est le cas du chanteur Douwe Bob. Pour montrer son opposition à la mesure, il a tout simplement annulé sa tournée de concert. Selon lui, n'accepter que les détenteurs d'un pass sanitaire revient à discriminer une partie de son public. D'autres, comme les humoristes Jandino Asporat et Hans Teeuwen, ont fait de même. Et surtout, le 25 septembre, date de l'instauration du Corona Pass dans le pays, à la surprise générale, Mona Keizer, une secrétaire d'État, a été limogée. Le Premier ministre Mark Rutte lui reproche une interview publiée quelques heures plus tôt dans le journal de Telegraph. Elle y critiquait ouvertement le pass sanitaire. Selon elle, il ne servirait plus à rien alors qu'une majorité d'adultes néerlandais sont vaccinés. COVID, killer. Killer.
Killer. Tout le monde ne va pas au même rythme en Europe. En Irlande, où la situation est encore un peu critique, le pass sanitaire est en place depuis le 26 juillet. Il est obligatoire dans les bars, les restaurants, où il a permis une reprise de l'activité. Il devrait être supprimé le 22 octobre. Alors que les tests ne sont pas pris en compte pour l'obtenir, que le vaccin est indispensable, la mesure est plutôt bien acceptée, comme l'a constaté Emeline Vin.
Son bar, le Maryse, était fermé depuis 17 mois. Rouvrir, c'est un soulagement pour Adam Cavana, malgré les contraintes.
Certains essayent de montrer le pass de leur frère ou d'un copain, ou de nous dire qu'ils ont moins de 18 ans, mais ça se passe bien avec la plupart des gens.
Vous demandez le QR code et une pièce d'identité, c'est ça ?
Oui, et un numéro de téléphone par groupe, au cas où quelqu'un tombe malade.
iPad à la main pour scanner les codes, Rob travaille au Temple Bar, un pub dans le quartier du même nom. Le pass sanitaire, il en est content.
Ça aide vraiment les gens à se sentir en sécurité à l'intérieur. Et puis pour les gens qui ne sont pas vaccinés ou qui ne veulent pas s'asseoir en salle avec les masques et tout, il y a toujours la terrasse où ils peuvent boire et manger.
Et oui, le pass sanitaire n'est réservé qu'aux salles des restaurants et des pubs, aux lieux clos. Pour les réfractaires, il y a toujours les terrasses, et ça n'embête pas Aaron, non vacciné, qui sirote une bière au soleil.
Je préfère attendre, faire d'autres choses, plutôt que de me faire vacciner juste pour ça. Il fait beau, donc c'est bon. C'est censé finir le 22 octobre, ce n'est pas dans longtemps, c'est casse-pied, mais c'est comme ça, il faut bien en passer par là.
Il faut bien en passer par là, c'est un peu le sentiment des organisations représentatives. Brian Foley, directeur de la communication de la Fédération des pubs d'Irlande.
Nous avons accepté à contre-cœur. Nous voyons le pass sanitaire comme problématique, car pour nous, nos membres allaient avoir à faire la police. Et il y avait vraiment des risques de troubles à l'entrée des pubs. Nous étions contre, mais le gouvernement a été très clair sur le fait que c'était une condition sine qua non pour ouvrir. Eh bien, ça se passe bien, il faut l'admettre. Ça nous a pris du temps pour s'adapter, mais nos tenanciers ont fait de leur mieux avec ces contraintes.
Le pass irlandais ne permet toutefois pas aux consommateurs munis d'un PCR négatif de recevoir un QR code Sésame. Cette limitation paraît juste aux restaurateurs.
Il faut être vacciné, c'est tout. Plus de 90% de la population irlandaise est vaccinée. Nous n'avons pas ici la culture du PCR. Vous n'allez pas faire un test PCR pour aller au pub. Si vous voulez aller au pub, c'est simple, vous vous faites vacciner.
Car pour Brian Foley, rien ne vaut l'atmosphère d'un pub traditionnel accoudé au bar en écoutant de la musique. Le principal problème qui demeure près de deux mois après la mise en place de la mesure, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Car beaucoup d'employés du secteur, des travailleurs étrangers bien souvent, ont quitté le pays et les autres peuvent toujours toucher l'allocation Covid. Mark McGowan dirige l'Association des restaurateurs d'Irlande.
Le problème avec ce certificat de vaccination, c'est que vous devez mettre quelqu'un à la porte pendant tout le temps où vous êtes ouvert. Ça prend du temps et des employés. Déjà que nous avons une pénurie d'employés en Irlande, on se retrouve à perdre quelqu'un de qualifié qui devrait être derrière le bar et pas à la porte à contrôler des pièces d'identité.
Et d'ailleurs, pour certains établissements, ce n'est tout simplement pas faisable. John Donohue tient l'International Bar au cœur de Dublin. Il a choisi de ne pas rouvrir l'intérieur de son pub.
Ça ne vaudrait pas le coup financièrement d'avoir quelqu'un à chaque entrée pour vérifier les passes et les passeports. Ce n'est vraiment pratique pour personne. On a du chauffage dehors, mais c'est quand même sympa d'être bien au chaud au bar, dans des sièges confortables pour se détendre. Si Dieu le veut, tout ça sera de retour en octobre.
Le retour à la normale est prévu pour le 22 octobre, pour l'instant, car le gouvernement n'a pas encore confirmé. Selon une étude de l'Institut de recherche économique et sociale, le pass d'un tiers des clients ne serait pas vérifié à leur entrée dans un établissement. Une explication, selon Brian Foley, représentant des pubs ruraux.
En Irlande, ce sont des habitués qui vont au pub. Vous connaissez vos clients. Une fois qu'ils vous montrent le pass, eh bien, ça ne sert à rien de le revérifier quand ils reviennent.
Son homologue, Mark McGowan, qui représente les restaurateurs, explique qu'il y a peut-être quelques exemples de non-respect. Aaron, le consommateur non vacciné, connaît tout de même quelques adresses où il peut se rendre quand il pleut.
Absolument. Je ne vais pas donner de nom, je ne suis pas une balance. Mais oui, j'ai entendu parler de 2-3 endroits, pas très loin d'ailleurs.
Évidemment, les propriétaires gardent le silence. Toujours selon l'Institut de recherche économique et sociale, malgré la réouverture des restaurants et des pubs en intérieur, les Irlandais sont restés prudents et leur nombre de cas contacts n'a pas augmenté. S'il est trop tôt pour obtenir des chiffres, les restaurateurs rapportent, eux, une bonne fréquentation pour la fin de l'été.
Leveling up, deux mots pour incarner une promesse que le Premier ministre britannique a faite aux anciens électeurs travaillistes qui ont voté conservateur en 2019. En français, on pourrait dire égalité des chances. Et lors du tout récent remaniement ministériel, Boris Johnson a ajouté le leveling up au portefeuille du ministère du Logement et des Collectivités. C'est la chronique en un mot de cette semaine et on retrouve Marie Billon à Londres pour en savoir un petit peu plus. Bonjour Marie.
Bonjour Juliette.
Alors, leveling up, ça veut dire quoi exactement ?
Alors, littéralement, ça veut dire nivellement par le haut, mais le gouvernement n'a pas donné de définition claire. C'est une expression qui existe déjà sous la forme de leveling ou leveling off, qui veut dire aplanir ou mettre à la même hauteur, mais c'est aussi devenu un de ces mots que le Premier ministre sort de son chapeau, qui font mouche, mais qui ne sont pas d'une clarté limpide. Alors pour nous aider à comprendre un peu plus, Valentine Quignot est analyste au Centre de réflexion Center for Cities.
Le terme a été mis en avant par Boris Johnson en décembre 2019. C'était sa promesse de campagne, en fait, basée sur le constat que le Royaume-Uni est marqué par de très fortes inégalités socio-économiques, mais qui ont un angle spatial et géographique très fort.
Puisque c'est une expression de Boris Johnson, on attend de lui qu'il nous éclaire un peu plus. Et il a fait un grand discours en juillet dernier dans la région des Midlands, au centre de l'Angleterre.
Leveling up. Faire du leveling up, ce n'est pas étaler un peu plus la confiture. Ce n'est pas déshabiller Paul pour habiller Jacques. Ce n'est pas un jeu de gagnant et de perdant. C'est gagnant-gagnant pour tout le Royaume-Uni. Et on pourra dire qu'on a avancé quand on aura commencé à augmenter le niveau de vie, à améliorer les services publics, à donner une chance à tous et à faire en sorte que chacun soit fier de son appartenance.
Ça n'est pas encore d'une grande clarté pour moi, mais l'idée serait qu'il veut mettre fin aux inégalités régionales.
Oui, parce que Boris Johnson a été élu grâce aux voix du Red Wall, les circonscriptions historiquement travaillistes, donc à gauche, mais qui ont voté Brexit. Le Premier ministre a promis de ne pas oublier ses nouveaux électeurs qui lui ont prêté leur voix, ce qui est assez contradictoire pour un chef de gouvernement conservateur de droite qui, d'habitude, est aux petits soins pour ses électeurs du sud de l'Angleterre, historiquement plus riches. Parce que ces inégalités remontent à la désindustrialisation et à la fermeture des grosses industries durant l'ère Thatcher. Le Nord a beaucoup de mal à se remettre de ce changement brutal imposé par Londres. Le Sud, lui, a prospéré grâce au développement du secteur tertiaire, tandis que le Nord s'est souvent enfoncé. Et les inégalités sont maintenant criantes, explique Valentine Quignot.
Sur toute une batterie d'indicateurs, on voit bien qu'il y a des écarts très forts qui sont, à mon avis, bien plus élevés que dans la plupart des pays européens. Donc il y a de très grands déséquilibres régionaux, à la fois entre les régions, entre les villes et même parfois au sein même des villes. Et on le voit sur beaucoup d'indicateurs. Donc un qui est très marquant, par exemple, c'est la santé. Par exemple, l'espérance de vie d'un habitant du centre de Londres est 10 ans de plus que celle d'un habitant de la ville de Glasgow en Écosse. Ensuite, il y a aussi beaucoup d'indicateurs directement économiques. Par exemple, le PIB par habitant est bien plus élevé dans les villes du sud de l'Angleterre et en particulier la région du Grand Londres que dans le reste du pays.
Level up, Marie. Pour le gouvernement, concrètement, ça se traduit comment ?
Alors, on aimerait bien le savoir. On attend toujours le livre blanc, dont la publication a été plusieurs fois repoussée. On l'attend désormais en octobre. Mais en septembre, Boris Johnson a carrément créé ce ministère du leveling up. Donc, il y a une grande attente. À moins, bien sûr, que ce ne soit qu'un effet d'annonce. En tout cas, Boris Johnson a déjà dit qu'une de ses priorités serait la sécurité, combattre le crime dans les régions où le trafic de drogue est le plus fort, par exemple. Il veut aussi promouvoir le sport pour que personne ne soit jamais à moins de 15 minutes d'un terrain de foot de bonne qualité, c'est ce qu'il a dit. Il a aussi évoqué la bataille contre la malbouffe et souhaite améliorer l'accès aux services publics, dont la santé. Il veut aussi pousser les entreprises à créer des emplois. L'accent n'est pas forcément mis énormément sur l'éducation, par contre, mais surtout, c'est le comment qui reste un peu mystérieux. Valentine Quignot a son idée.
Notamment donner plus de pouvoir aux autorités locales qui ont beaucoup souffert de l'austérité qui a été imposée à partir des années 2010. Et ça a beaucoup joué sur le fait que certaines villes ont pu se relever plus que d'autres de la crise de 2008, par exemple. Il y a aussi une question d'investir dans les centres-villes, améliorer les centres-villes qui sont beaucoup à l'abandon, les magasins vides.
Améliorer les transports est aussi une priorité pour Boris Johnson, conseiller amateur de bus et de vélo notamment. Si la réussite de Londres est tellement forte, c'est parce qu'elle bénéficie de l'apport de travailleurs de régions limitrophes grâce à son réseau de transport très développé. Et dans ce sens, le HS2, le TGV qui doit mieux relier le sud au nord et à terme surtout les villes du nord entre elles, fait partie de ce grand projet de leveling up.
Merci Marie, à bientôt. Marie Billon, correspondante à Londres. Accent d'Europe, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Françoise Grelot. Vous pouvez retrouver l'émission et toute l'actu européenne, bien sûr, sur le site de la Radio du Monde, rfi.fr. À bientôt.